C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une sommité du social media français, un tweetos de haute volée, un grand monsieur qui évolue sur les réseaux sociaux depuis, allez à la louche, plus de 15 ans à peu près. Et jusqu'à il y a quelques jours, il était le directeur des réseaux sociaux de La Poste. Bonjour Patrice Hilaire, je suis très heureux de t'accueillir au micro du Super Daily.
Ben, bonjour Thibaut, moi je suis très heureux d'être là parce que j'entends toujours un podcast et de le vivre en vrai. On va voir ce que ça va être, cette expérience. Mais merci en tout cas pour l'invitation.
Et merci de venir jusqu'à nous, hein, à Lyon. Voilà, on est toujours très contents quand les gens... Alors toi, je sais que tu viens d'Angers.
Voilà, c'est ça.
Donc on sait, hein, nous qui sommes des provinciaux, quand on vient nous voir, on est contents. Donc merci, merci à toi. Il y a vraiment beaucoup de choses dont j'aimerais qu'on puisse parler aujourd'hui. Et forcément, j'aimerais évidemment qu'on parle de ton parcours au groupe La Poste. Hein. L'histoire, elle est folle. C'est celle d'un passionné d'Internet qui travaille pour le groupe La Poste et gravit les échelons de CM à directeur des médias sociaux, même du digital. Tu vas nous raconter comme ça. Tu as commencé comme CM?
Eh ben ouais, écoute, enfin, je suis quand même assez âgé, hein, donc par rapport à vous, moi je suis quand même un vieux dans l'histoire, mais j'étais plutôt DIRCOM. Et puis effectivement, je suis rentré à La Poste pour travailler à Angers en 2008. Et puis j'avoue que dès 2009, en fait, j'ai commencé à connaître Twitter et je me suis dit, tiens, pour mon entité locale, je ferais bien des comptes Twitter en fait. Et quand au niveau national, ils ont voulu créer les comptes Twitter, ils se sont dit, mais il y a un énergumène local qui a déjà créé 3 comptes Twitter en 2009, tu vois. Et donc effectivement, ils m'ont proposé... je causais toutes les cases, hein, ce qui était les cocher toutes les cases, pardon, qui était effectivement être assez âgé de l'expérience, parce que pour un grand groupe prendre la parole déjà à l'époque, il fallait quand même un certain expérience. Et puis effectivement derrière, au bout d'un moment, on s'est dit d'accord, effectivement. Et puis je suis monté à Paris dès 2010 pour créer les médias sociaux donc au groupe La Poste.
Donc initiative locale quasiment, enfin d'une localité, c'est quoi, à l'échelle d'un bureau de poste ou
Alors non, c'était les départements en fait, parce que j'avais 3 départements, c'était d'accord. Le Maine-et-Loire, Sarthe-et-Mayenne. Hein,
d'accord.
Pour il y en a que dans ton équipe, je crois qu'ils sont
bien
un
sûr
peu,
pour Camille. Des big up à Camille.
Voilà, donc effectivement, donc derrière, eh ben j'avais créé pour ces trois grands départements un compte Twitter qui était capable de diffuser de l'information en lien avec l'actualité de La Poste sur ces territoires là quoi.
Donc, et ça tu le fais pourquoi à l'époque? J'aimerais comprendre le déclic, parce que là il fallait y croire. On parle d'un moment où Twitter, il fallait envoyer des textos pour pouvoir publier.
Non, pas encore, on était quand même dans un système classique, mais effectivement il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas aujourd'hui. Mais c'était se dire qu'effectivement cette entreprise elle avait la capacité d'informer d'une manière un peu différente que le communiqué de presse. Est-ce que voilà, ces systèmes classiques qu'on faisait à l'époque, se dire qu'on pouvait aussi s'adresser directement auprès de nos clients d'une manière très simple. Et Twitter était pour moi naturel parce que j'y étais depuis quelques années sous un pseudonyme. Et donc derrière, en fait, je me suis dit bah tiens, alors, on y va. Et puis ça a plutôt bien fonctionné. Et puis ça m'a permis effectivement, comme tu le disais, d'être identifié au national pour la création des comptes au niveau national.
Et puis petit à petit, et ben là, t'as pris des responsabilités, hein, au groupe La Poste. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est produit ensuite? Déjà le social media est devenu stratégique aussi pour le groupe La Poste.
Ah bah oui, alors ça a été très très rapidement en fait. En 2010, quand il y a eu la création, il y avait déjà une vraie volonté, on était très innovants en fait, hein, sur cette partie-là. C'est une entreprise qui est très innovante, on ne l'imagine pas toujours, mais c'était effectivement, La Poste a toujours été en avance sur un certain nombre de grands sujets. Et donc là, sur le social media, effectivement, on a décidé de créer un compte de relations clients dès 2010 qui s'appelait Lise à La Poste. Et il y a eu une discussion après, parce qu'effectivement, c'était un homme qui était derrière, donc il y avait des discussions un peu rigolotes sur Lisa, parce que j'ai répondu tout seul pendant 2 ans et demi.
Tu as été Lisa à La Poste.
Voilà.
Si vous ne saviez pas qui se cachait derrière Lisa à La Poste, fut un temps, c'était Patrice Hilaire.
Je faisais même des conférences en disant je suis un transsexuel numérique. Il faut toujours lancer un peu une conférence pour attirer les gens. Je dis donc je suis transsexuel numérique en disant que j'étais Lisa à La Poste. Et effectivement, pendant 2 ans et demi, j'ai géré la relation client, qui était aussi très intéressant pour moi parce que ça permettait, j'avais une expérience terrain, une expérience en communiquant. Et donc c'est des choses comme ça qui nous ont permis d'évoluer. Et forcément, au bout d'un moment, on s'est dit, Patrice tout seul, il peut pas le faire. Et donc là, on a vraiment mis en place une structure dédiés à la relation client. Donc c'est des postiers hein, qui sont toujours donc à Vannes, qui aujourd'hui répondent et prennent en charge uniquement la partie relation digitale avec Lisa Labosse, parce que on est une entreprise aussi qui avait en fait, alors qui avait, parce que je sais, il y a peu de temps que j'ai changé, donc je suis encore toujours un peu au présent, mais qui en fait qui a décidé de s'adapter aux clients et de pas ouvrir des comptes pour l'ensemble de ces marques en fait. Et donc on a au départ ouvert très peu de canaux, et c'était derrière en fait dans notre organisation où on devait répondre à toutes les questions de nos clients, parce qu'autrement on s'est dit ben si j'ouvre un Colissimo, si j'ouvre un certain nombre de supports liés aux produits, c'était compliqué pour nos clients. Là en fait c'est Lisa Laposte qui a la capacité de répondre, et c'est encore vrai aujourd'hui hein, Lisa Laposte a vraiment le lead sur cette relation client, mais également sur cette relation avec l'ensemble des parties prenantes sur la partie grand public, toujours avec cette optique-là d'essayer d'ouvrir un minimum de canaux pour simplifier ouais. l'interaction.
On va reparler de Lisa Laposte un peu ouais. plus tard, parce que il y a des choses qui m'intriguent. J'aimerais savoir bon. Comment marche cette machine infernale qui est Lisa Laposte. Donc je le disais, hein, on se connaît un peu, Patrice. Voilà, voilà. On n'en fait pas ouais, mystère. On se connaît depuis un petit moment. En tout cas, on se connaît depuis. Allez, j'ai calculé, ça doit faire à peu près 10 ans qu'on se connaît.
Je pense, j'aurais dit 2012. Ouais. Ouais,
donc ouais. ça fait longtemps, ouais. quand voilà. on peut le dire. Et bien, c'était bien avant que je monte l'agence Supernatif. Et notre toute première rencontre, elle a été un peu houleuse, et j'aimerais bien qu'aujourd'hui on revienne dessus, parce que ouais. comme je te le disais tout à l'heure quand on parlait, elle a été aussi fondatrice, cette rencontre, de ma perception, ma vision du social media. Donc je te dois des choses, Patrice. Parfois vous savez, les meilleures rencontres, elles commencent par un chaud froid. Bah c'était un peu ça à l'époque. J'étais community manager de la marque Cochonou, et toi tu étais un tweetos déjà important hein. T'avais déjà une grosse audience, et t'étais quelqu'un d'important sur Twitter, et il se trouve que tu es passionné de chevaux.
Voilà.
Voilà. Et donc, tu suivais avec beaucoup d'attention ce que moi, je racontais pour la marque.
Ben voilà.
Sur ces différents canaux.
Je voulais participer, je voulais échanger avec la marque, en fait. Et j'ai beaucoup échangé, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, j'échange beaucoup, mais on ne répond jamais. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, je vais quand même, j'étais quand même, je pense, assez gentil. On en parlait tout à l'heure, parce que j'avais écrit sur un blog que j'avais à l'époque. Et donc, vous m'étiez dit, voilà, je voudrais quand même alerter le fait qu'il y a une déception en tant que client. Ben, je suis passionné, je donne plein d'informations, enfin, j'essaie d'échanger avec la marque, d'être là et d'être présent. Et puis, en fait, finalement, en fait, j'ai peu de retour de ce que je fais. Donc, je me dis, ben, quel est l'intérêt, en fait, d'être présent sur les médias sociaux? Et donc, c'est pour ça que je te connaissais pas à l'époque. J'ai essayé d'un petit peu de te gratter en mettant un petit message un peu hard pour essayer de te
ouais,
faire réagir.
Bon, mais il a mis les deux pieds devant et t'avais bien fait, parce que, derrière, ça nous a permis de nous rencontrer. Ouais. On a eu une discussion, hein. Moi, je t'ai proposé qu'on échange à l'époque. On s'était ouais. téléphoné. Je me souviens très bien
ça
de cette discussion.
Ça existait, le téléphone, à l'époque.
Voilà. Et surtout, à ce moment-là, moi, ça m'a permis aussi, je dirais, d'affiner mon point de vue sur ce que je pensais être le social media. Parce que je me souviens très bien de cette conversation. Tu m'avais dit, Patrice, ce que tu fais sur Cochonou, c'est super, c'est précieux. Mais la responsabilité qui est la tienne en tant que CM d'être tout seul pour gérer tout ça, il y a un problème quelque part. Et voilà. C'est pas possible, et ça crée des déceptions, tu vois, pour les gens comme moi qui essayent d'interagir avec la marque, parce que le social media, c'est du conversationnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu. Tu es un fervent défenseur du conversationnel. Comment est-ce que tu as porté ça, toi, ce sujet du conversationnel, au cœur de tes missions à La Poste?
Alors, c'est jamais simple, en fait, cette partie-là, parce que c'est vraiment... Alors déjà, ça demande beaucoup de présence et de temps, et on sait que ben, on manque souvent de temps. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'essentiel, c'est de se dire qu'effectivement, il faut peut-être des fois faire des choses un peu moins performantes en termes de visuel, de vidéo, mais par contre, l'interaction avec nos clients est le moment le plus important. Je me suis toujours dit que, par exemple, quand je gérais la relation client, aller répondre à une personne alors que la personne n'avait pas posé de questions directement à Lisa Laposte et regarder, par exemple, sur le hashtag Laposte ou par rapport aux produits et services, et aller lui dire, bah, écoutez, j'ai vu que vous aviez une interrogation vis-à-vis de Laposte, et j'allais lui apporter une réponse, en tout cas, je l'orientais, parce que je n'avais pas forcément tous les éléments, mais en fait, le fait d'aller chercher des gens qui n'avaient pas posé de questions, finalement, c'était beaucoup plus performant dans la relation avec le client, plutôt que quand la personne vient, en gros, avec une insatisfaction client, et là où tu es un peu dans la relation classique, quoi. Et donc, c'est dans ce sens-là où j'ai toujours trouvé que c'était très difficile hein, de le faire, et même encore maintenant, hein, mais c'est ce je trouve le côté le plus sexy, le plus intéressant de ce métier-là, c'est l'interaction avec les gens, d'aller chercher, d'aller essayer de retourner des gens qui aujourd'hui sont plutôt négatifs, et puis le fait d'interagir avec eux, se disent « Ah, finalement, cette marque-là, elle est quand même différente telle que je l'imaginais. » Et donc, c'est là-dessus où moi, je trouve que c'est un point essentiel, souvent qu'on oublie, parce qu'on est plutôt dans des éléments marketing. Aujourd'hui, on nous dit « Bah voilà, il faut poster à tel jour, telle heure. C'est la statistique qui dit ça. Il faut poster une vidéo, pas une vidéo. » Voilà. Et au final, on en perd finalement le principal, c'est effectivement le côté social et d'interaction avec avec nos clients.
Ouais, bah tu vois, de nos discussions d'il y a 10 ans, je garde ça, ce morceau là sur le conversationnel. À nous, c'est à tous les gens qui travaillent ici à l'agence Supernatif le savent, hein, c'est le cœur de notre métier, de notre les CM ont une place extrêmement stratégique au cœur de notre organisation, et on est aussi beaucoup en empathie avec les CM qui sont isolés chez les annonceurs, parce que c'est vrai que souvent les choses finalement en 10 ans, elles ont pas tant bougé que ça. Rares sont les marques à avoir commencé à investir autant sur le conversationnel. C'est intéressant parce que tu vois le sujet de l'image, de la communication, à proprement parler du branding, on le sent, hein, les budgets sont là, hein, ils commencent à, ça commence à être un vrai sujet stratégique, mais c'est un sujet de prise de position, on va dire, hein, de se rendre visible. Et le sujet du conversationnel, ça reste un peu le parent pauvre du social media. Est-ce que tu as le même sentiment que moi, finalement, que les choses peinent à avancer de ce côté-là?
Alors, je dirais pas c'est parent pauvre, parce que je pense que c'est plutôt aujourd'hui une attitude, comme tu le disais, c'est une démarche personnelle. C'est-à-dire que se dire que je suis d'accord avec toi, on a des budgets aujourd'hui, il y a des médias, et puis même les réseaux sociaux ont évolué, hein. Je veux dire que la capacité qu'on a aujourd'hui en sponsoring, en gestion, en ciblage, elle est énorme, ce qu'on n'avait pas avant. Mais aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est qu'effectivement, je pense que c'est de se dire, ça n'a pas demandé un coup si je vais faire une surveillance sur des mots-clés. C'est en gros, c'est de se dire, bah tiens, je vais passer du temps là-dessus, donc ça a forcément un coût, mais c'est pas le même coût. Et donc c'est là-dessus où je pense que c'est plus une démarche personnelle, comme tu l'indiques. Et effectivement, je pense que vous l'avez bien intégré. Et d'autres, bah, sont plutôt dans le marketing. Et c'est là-dessus où je trouve, moi en tout cas, on fait la différence entre les community managers et d'autres, cette capacité justement à interagir avec nos clients, parce que c'est ce qu'ils nous demandent pour une partie. Je pense qu'il faut pas oublier non plus qu'on a des messages de marque, des grandes campagnes. Nous, on accompagne ces grandes campagnes qui sont importantes aussi pour que le client, quand il le voit à la télé, il l'entend à la radio, il le voit aussi sur les réseaux sociaux avec cet accompagnement. Mais derrière, il faut pas oublier que ben, ce qui est aussi sympa, c'est de temps en temps arriver à faire un peu d'humour, d'échanger, orienter les personnes pour les aider au quotidien, quoi.
Et puis, quand tu crées la relation, quand tu interagis, c'est là aussi où tu peux glaner des insights. Hein. Ouais. En gros, tu écoutes en même temps que tu parles.
Oui,
Et ouais. C'est intéressant aussi, hein, nous, de ramener aux annonceurs qu'on accompagne. J'imagine au groupe La Poste, vous aviez des stratégies très poussées d'écoute, d'analyse de bruit, etc., de remonter comme ça d'insights directement depuis vos clients, vos consommateurs.
Oui, alors ça, on le fait pas spécifiquement pour les réseaux sociaux. Effectivement, c'est un ensemble d'éléments aujourd'hui qui sont plutôt par des études, hein, je veux dire, qui sont pas, on dirait aujourd'hui géré totalement par le social media. Ouais. C'est un ensemble d'outils en gros qui existent, qui sont donc classiques, qui permettent d'étudier et de voir l'évolution. Mais c'est vrai que nous, de toute manière, on avait à la poste des éléments plutôt très liés à la relation client sur des interrogations, sur des suivis colis par exemple. Donc c'est important de traiter souvent ces gros volumes pour justement s'intéresser à des signaux faibles. Et c'est la difficulté souvent dans des grands groupes, c'est justement d'arriver à sortir du gros volume ces signaux faibles qui sont les signaux qui éventuellement, comme tu le disais, des insights sur des produits, des évolutions ou des fois des irritants qu'on a détectés qui seront peut-être facilement levables, quoi.
Si on revient au groupe La Poste à proprement parler, c'est un groupe qui a des activités B2C, alors ça on connaît tous, hein, le postier, le facteur, ouais. Etc., le timbre, mais aussi une quantité d'activités B2B, notamment La Poste Solution Business, il y en a plein d'autres. Quelle principale différence, toi, tu vois entre une stratégie social media B2C et une stratégie social media B2B?
Bah, moi, je vais peut-être te choquer, mais j'en vois pas de différence, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'accorde beaucoup, aux éléments d'échange avec ce client. Et finalement, en fait, si tu pars sur ce principe en disant, il faut d'abord être à l'écoute de nos clients, interagir avec nos clients, finalement, en fait, la stratégie est l'équivalente. Ce qui va différencier pour moi, c'est les volumes. Forcément, quand tu es sur du B2B, ben, tu vas restreindre ta cible et donc ton volume va être moins important. Donc, par rapport à ce que je te disais, effectivement, on va avoir plus facilement identifiable les irritants que quand t'es sur du grand public, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence en tant que telle. Les cibles sont différentes. Peut-être que on pourrait imaginer que les supports, mais je pense que les supports évoluent. Si on y reviendra peut-être sur LinkedIn, par exemple, qui était très B2B avant, devient pour des fois, alors certains, des éléments négatifs, très, on va dire Facebook, on va dire, parce que pour simplifier pour certains, quand je vois certains encore postent aujourd'hui, je regardais, bah, effectivement, on est deux fois de l'ordre, pas très loin de ce qu'on avait à Facebook il y a quelques années. Mais si on reste sur des éléments classiques, je pense qu'effectivement, on a des plateformes et on peut interagir avec les professionnels final, comme on le fait avec le grand public, ce qui compte pour moi, c'est de mettre en face les experts qui ont la capacité de répondre aux demandes de nos clients.
Moi, je trouve ça passionnant parce que pendant longtemps, on a imaginé, nous y compris, hein, que le B2B se passait à un endroit et que le B2C se passait à un endroit et qu'en fait, le professionnel, il était professionnel que quand il était sur LinkedIn. Le reste du temps, on pouvait pas lui parler. Il fallait pas même. C'était indécent d'aller l'adresser à quand il était dans son canapé chez lui ou quand il était dans ses transports en commun. C'est pas là que ça se faisait. Donc du coup, LinkedIn, c'était l'évidence. Là, au moins, c'est facile. Ou à la rigueur, Twitter. Mais par contre, Instagram, Facebook, non, ce sont des canaux perso. Est-ce que vous, dans tes actions à la Poste, vous avez un peu brisé ce truc-là, c'est-à-dire, ben non, en fait, je peux parler à un professionnel, y compris chez Meta, hein, chez Facebook et chez Instagram, parce qu'un professionnel, son buying pass, son chemin vers l'acte d'achat, il s'est complexifié et il est toute la journée, quoi. Il commence le matin en se levant et le soir en se couchant.
Alors oui, c'est vrai que, mais par contre, dans les grands groupes, on a maintenant quand même segmenté, notamment la partie CM. Elle est vraiment dédiée à des business units pour nous, sur cette partie notamment B2B. Moi, j'étais vraiment sur un côté institutionnel, gouvernance. Et le fait d'organiser, après, c'était important d'avoir cette gouvernance de dialogue, pour savoir ce que je faisais chacun. Parce que comme tu le disais, on est, à un moment donné, on est papa, à un moment donné, on est professionnel, à un moment donné, on est, je sais pas, coureur et on fait du sport. Donc, on a une journée complète et effectivement, il peut y avoir un contact avec la marque en fonction de ses produits à chacun des moments de la journée. Mais pour les grands groupes, c'est vrai que c'est plus difficile par rapport à ce que tu dis aujourd'hui parce que derrière, on est forcément sur des volumes plus importants. On a des gens différents, des équipes différentes. Et donc, c'est arrivé justement à ce qu'on ait une sorte d'uniformité entre les discours. Et donc, c'est ça pour moi aujourd'hui qui est important pour les grands groupes. Je dirais pour un système classique, c'est beaucoup plus simple quand c'est le même CM qui fait les deux parties. Ouais. Mais sur les grands groupes, c'est là la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir justement cet équivalent de communication entre les différents.
Garder la même tonalité. Mais aussi. Oui, voilà. Ça, c'est un enjeu. Ouais. Et alors, La Poste, tu le disais, c'est une entreprise qui est vraiment précurseuse sur un certain nombre de sujets, et notamment l'influence et l'influence B2B. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça marche vraiment, l'influence B2B?
Alors, c'est toujours pareil. Quand ça marche, en gros, ça veut dire tout et rien. C'est-à-dire que par rapport aux références qu'on a, c'est toujours pareil. Quand on parlait à l'époque des viralisations, si tu veux, je disais toujours, mais à La Poste, un tweet qui est retweeté X milliers de fois, peut-être que c'est pas beaucoup pour nous. Et pour n'importe quelle marque aujourd'hui, c'est énorme. Donc, c'est toujours pareil. Il faut se placer en tant que marque par rapport aux référents qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, sur cette partie-là, pour moi, l'influence, elle est toujours intéressante, aussi bien en particulier qu'en professionnel. Et ça fonctionne à condition de choisir, et c'est ça qui prend beaucoup de temps, le bon influenceur par rapport au message que l'on a passé. Là où on a vraiment évolué de notre côté à l'époque, c'était qu'à l'époque on était vraiment sur du long terme avec les influenceurs, parce qu'il y en avait peu finalement, et donc c'est des gens avec qui on travaillait un voire deux ans régulièrement sur des OP. Là, en fait, maintenant il y a tellement de plateformes, il y a tellement d'influenceurs que finalement c'est beaucoup plus difficile de travailler sur le long terme avec les influenceurs. Donc c'est vraiment un ciblage qui est lié à un produit sur lequel on veut travailler et avec une communauté sur laquelle on veut travailler.
Donc là, tu, en gros, vous faites comme n'importe quelle marque, hein, vous contactez un panel d'influenceurs, vous leur proposez une OP, vous leur dites, allez, pendant 3 semaines, pousse mon produit, ni plus ni moins. Hein.
Alors, on n'est pas aussi, on est plutôt, voilà, on détourne. L'idée, c'est de se dire, tu essaies, moi, j'ai toujours été assez libre avec les influenceurs, je veux pas les orienter trop, donc on leur dit, voilà, quels sont les éléments qu'on souhaite. On souhaite, bien évidemment, ils s'approprient bien cette partie-là aussi, puisque derrière, c'est lui qui va, vis-à-vis de sa communauté, mettre en avant cette partie d'offres et de services. Donc, c'est là-dessus où on va plutôt insister. Mais après, on le laisse aussi totalement libre de mettre en avant par rapport à sa communauté pour pas non plus que ça fasse tâche par rapport à ce qu'il dit au quotidien. Donc, c'est vraiment un travail très important entre les deux de brief, d'explication et qu'ils se sentent à l'aise vis-à-vis de la marque parce que c'est aussi ça qui est important pour nous, pour que ça soit naturel et qu'on n'ait pas l'impression que ça devienne une pub au milieu d'un océan de discussion, quoi.
Forcément. Il faut qu'on parle de Twitter, hein, tu l'as dit, c'est ton média, c'est ton réseau social, Twitter. Ouais. J'ai regardé 2010, tu créais ton compte, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, 19 000 abonnés aujourd'hui sur ton compte Twitter. On continue ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec Twitter? On s'arrête là ou
à titre personnel, je continuerai moi. Ouais. Voilà. Après, en tant que marque, il y a quand même des interrogations aujourd'hui sur tout ce qui est publicitaire. En gros, hein, c'est de se dire est-ce qu'on met en tant qu'entreprise. Alors là, je parle plus large hein, parce que j'ai quitté le groupe La Poste, mais plus large. Je pense qu'il faut se poser la question de l'intérêt ou pas quand on a un budget restreint du ciblage Twitter. Donc moi, je pense que je réfléchirai aujourd'hui sur l'utilisation de Twitter en sponsoring. Maintenant, pour moi, Twitter reste encore le lieu de viralisation. De manière assez importante. C'est un des rares, comme je dis toujours quand je fais des conférences, sur l'ouverture totale des données. On va dire 99% on va dire des comptes sont accessibles. Quand tu fais un tweet, n'importe qui dans le monde peut le voir. Alors, il y a une évolution vers l'algorithme, une volonté d'être sur l'algorithme, mais tu peux quand même encore choisir par le système d'abonnement un des gens qui t'intéressent. Donc, tu as encore cette capacité à gérer ces éléments-là. Donc, pour moi, en tant que marque, il faut y être, il faut pas partir. Il faut continuer à être présent tous les jours. Maintenant, c'est l'interrogation, elle est plutôt sur est-ce que je mets encore de l'argent sur le sponsoring par rapport à cette plateforme aujourd'hui. Et c'est là-dessus, je pense que je serais beaucoup plus dubitatif.
Ouais. Et pour les marques, faut y aller. Pourquoi? Moi, c'est un peu ma question. Est-ce qu'il faut y aller comme un endroit comme ça a été fait, comme vous l'avez fait avec La Poste, hein, Elisa La Poste, un endroit du SAV, du service client? Est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que c'est un endroit, bien souvent, il y a un canal Twitter qui est conservé chez les marques comme un espace RP? Ou est-ce qu'il y a vraiment un endroit ici plus où je peux travailler ma marque réellement, mon branding, ma tonalité, etc.? Qu'est-ce que toi tu penses là-dessus?
Alors je pense que de toute manière pour les réseaux sociaux, chaque réseau n'est pas un monde séparé des autres. Donc faut voir ça dans une globalité stratégie de communication sur savoir aujourd'hui comment aujourd'hui Twitter je le mets en avant par rapport à des viralisations, par rapport à des cibles. Et puis je dis aussi souvent en fait c'est pas moi qui vais décider, c'est-à-dire que mes clients où ils sont aujourd'hui, est-ce qu'ils réagissent ou pas, est-ce qu'ils interagissent ou pas, est-ce qu'ils sont sur d'autres supports. Je dirais que c'est presque plus, enfin pas aux marques de choisir, c'est peut-être se dire aujourd'hui qu'est-ce qui fonctionne quoi. Et je pense que ça fonctionne encore sur nous on sait qu'on est très surveillé, par exemple si tu parlais de Lisa La Poste, sur la capacité qu'on a à répondre et que les journalistes suivent. Par exemple, le nombre de réponses qu'on a sur un sujet ou sur un produit.
C'est une sorte d'indicateur de performance.
Eux, voilà, c'est de se dire s'il y a plein de gens qui posent sur un sujet, il peut y avoir un problème sur ce sujet-là. Donc, on est aussi très vigilant sur la capacité qu'on a à répondre. Donc, on travaille beaucoup avec les équipes de la relation client, justement, sur la manière d'interagir avec nos clients, d'être très personnel sur l'interaction pour justement éviter quand tu regardes toutes tes réponses, tu es 10 fois la même demande à une personne. Donc, c'est des éléments qui sont pour moi essentiels, mais par rapport à ce que tu dis, effectivement, moi je pense que c'est les clients qui choisissent. Donc si aujourd'hui on a encore des gens qui interagissent avec nous, on a par exemple les élus qui viennent, on a toute une partie également journalistes qui sont là, on sait que c'est des éléments importants, ça doit encore rester pas le seul, mais un des éléments de communication importants dans le cadre de la communication que l'entreprise doit avoir par rapport à une stratégie globale.
Et toi, tu continues à faire ta fameuse tweet review?
Eh bien oui. Écoute, je lâcherai pas.
Combien d'années que...
Je suis concurrent au...
C'est vrai, t'es avant nous en général, t'es un petit peu plus tôt toi.
Donc, effectivement, depuis 2010, j'ai commencé.
Alors si vous ne connaissez pas la tweet review de Patrice Hiller, je sais pas où vous étiez ces 10 dernières années, c'est la revue social media, la revue du digital tous les jours sur Twitter.
Voilà, je m'impose en fait cet exercice. Comme vous tous les jours où je entre 7h et 8h en gros il y a 6 tweets que je fais qui donnent en fait des articles, des informations sur l'actualité social média et qui permettent aux gens qui n'ont pas forcément le temps en 6 tweets d'avoir une information et puis avant d'écouter le Super Daily on en sort beaucoup plus, mais en tout cas ils ont un petit peu d'informations en tout cas sur cette actualité.
C'est une référence la petite review de Patricia. Pourquoi t'as jamais voulu aller un cran plus loin là-dessus? Tu t'es déjà posé la question de dire tiens, je partirai de ça, je ferai un podcast par exemple. Ou partant de ça, je ferais, je sais pas, une newsletter comme peuvent le faire certains, tu vois, entretenu, etc. Est-ce que
parce que c'est du temps en fait, voilà, c'est du temps. On est on n'est pas que des hommes professionnels, on a aussi une famille. J'ai fait du sport aussi, je suis donc pour des prépas de marathon ou des choses comme ça, donc forcément ça prend du temps. Et donc j'ai pas le temps de faire ça. On m'en a souvent parlé en disant est-ce que tu peux aller plus loin, et donc je suis toujours admiratif de ce que vous faites, parce que moi j'avoue que j'aurais pas le temps et ça demande aussi beaucoup d'énergie, et en fait j'arriverais pas à tout gérer, et de là déjà ça me suffit bien, et moi surtout ça me permet naturellement, en fait c'est comme ça, l'idée au départ je l'avais faite juste pour moi sur la capacité à connaître l'actualité.
Puis on connaît
dit,
bien.
Voilà. Et je me dis,
tu t'es mis dans une galère. Voilà.
Dit, bah, en fait, au final, je le garde pour moi, mais autant le partager. Ouais. Quoi. Et donc, j'ai fait cette partie-là très, très rapidement en disant, bah, je vais le partager aux gens. Et si ça intéresse les gens, ben bah, voilà, je, comme ça, ils sauront tous les matins qu'il y a, en prenant le petit déjeuner, qu'ils ont une information synthétique de site tweet sur le sujet, quoi.
Toi qui es un des piliers du tweet français, on va dire, ouais. En tout cas, un des anciens hein, sur la plateforme, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que les utilisateurs de Twitter ont changé, ou est-ce que tu retrouves ce qui faisait les fondements, on va dire, au début de ces premières communautés?
Alors moi, je voudrais pas parler pour un vieux, je sais pas si on veut dire des gros mots sur, mais en tout cas, non, je pense pas. Enfin, je dirais que moi, j'ai ma vision, forcément, j'ai vieilli, donc les communautés m'ont suivi, les gens du début sont encore là, donc je pense que faut pas non plus trop tirer sur cette plateforme. Alors il y a beaucoup d'autres plateformes. À l'époque, on était plus restreint en termes de choix, mais c'est, je pense que je vois beaucoup de gens qui l'utilisent encore sur des interactions. Moi, je trouve que c'est cette plateforme-là, elle reste encore la capacité qu'on a aujourd'hui à discuter avec n'importe qui dans le monde. Alors des fois, ça marche. Des fois ça marche pas, mais moi je m'aperçois qu'en fait il y a des gens que j'aurais jamais atteint à mon petit niveau qui sont des grands PDG ou des grandes personnes, et finalement il suffit d'interagir avec eux. Alors c'est pas une histoire de grosseur de communauté hein, c'est tout simplement la capacité qu'on a régulièrement à s'intéresser à ce qu'ils font et à interagir avec eux et à être identifié, et finalement en fait c'est, je pense qu'on a encore gardé ces éléments là la difficulté pour moi aujourd'hui, c'est principalement cette segmentation qu'ils ont fait avec l'algorithme. Quand tu regardes maintenant ton fil, si tu mets pas abonnement, t'as en fait une sélection des articles ou des tweets. Et finalement, je trouve que c'est là-dessus où on perd. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de suivre des gens que j'ai identifiés et de suivre tout ce qu'ils disent. Voilà. Et donc ça, c'est là-dessus. Je pense que c'est plutôt la difficulté. On s'aperçoit que beaucoup de gens qui arrivent aujourd'hui ne se connaissent pas cette différence-là et restent sur leur fil donc lié à l'algorithme.
Et oui, parce que même chez Twitter, il y a une bascule vers l'algorithme de centre d'intérêt, l'algorithme de recommandation. Alors effectivement, Instagram, même chose. TikTok, bon, eux, ils se sont fondés là-dessus. Oui, c'est vrai. Et je comprends que toi, qui a, je dirais, des relations là maintenant historiques, ça va être un peu déstabilisant.
Ouais, j'ai toujours voulu restreindre, donc je suis à peu près 300 personnes. Je veux pas non plus avoir trop de personnes, justement pour bien m'intéresser à ce qu'ils diffusent et être vraiment l'interaction avec ces personnes-là.
Allez, j'aimerais juste qu'on reparle, s'il te plaît, de Lisa Laposte, parce que ça m'intrigue, ce compte Lisa Laposte. Hein. C'est vraiment un compte dédié au service client de La Poste.
Alors c'est plus large que ça, parce que je me bats justement sur la volonté quand on a créé ce compte-là, c'était juste justement pas dire, parce qu'autrement on nous pose toujours la question, et assez récemment, avant que je parte, on m'a encore reposé la question en disant, mais pourquoi on devrait pas mettre La Poste relation client ou des choses comme ça, pour que ce soit très clair.
Tiens, je te pose la question, effectivement.
En tout cas, moi je me bats parce que je considère que c'est un compte qui s'adresse aux clients, et donc quand on a un compte qui s'adresse aux clients, il n'est pas uniquement dans un cadre de relation client comme je disais tout à l'heure. Donc c'est un compte qui peut aussi vous partager les bons plans de l'entreprise, un certain nombre d'informations de l'entreprise, et dans lequel il y a la relation client.
Mais c'est pas que du SAV, c'est ça que tu veux dire.
Ouais. Et je trouve dommage, en fait, les marques qui ont choisi, ça c'est totalement personnel, qui ont choisi d'avoir un canal de relation client uniquement dédié. Donc on avait des grandes marques qui ont choisi ça. Parce que moi, ce qui m'a toujours dit, c'est, on a ces gens-là, ils s'abonnent souvent, alors qu'on n'est pas obligé, parce qu'on a les DM ouverts, donc on peut très bien. Et donc finalement, ils s'abonnent. Et donc derrière, on a la capacité quand même, quand on va repousser des éléments de produits, d'informations, de les toucher sur d'autres services et éventuellement. Alors ça n'a pas transformé toutes les personnes, mais peut-être 1%. Et si c'est 1%, derrière, j'aurais déjà fait un boulot intéressant. Alors que quand tu dédies uniquement sur la relation client, finalement, les gens, ils sont là pour la relation client et ils se disent, en gros, ça m'intéresse plus, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Lisa La Poste. Alors, c'était à l'époque, ça se faisait beaucoup, les avatars. Oui. C'est revenu un peu à la mode,
c'est vrai.
Grâce à d'autres personnes et d'autres donc supports aujourd'hui. Mais en tout cas, ça reste pour moi une volonté d'avoir non pas un service totalement relation client, mais plutôt ouvert en interaction avec nos clients.
Comment ça se passe derrière? Parce que là, vous devez être, ce compte Twitter, il doit être sollicité H24 tout le temps. C'est quoi la mécanique derrière? Est-ce qu'il y a des bots qui répondent? Est-ce qu'il y a tout un service qui incarne Lisa La Poste? Comment c'est quoi le fonctionnement?
Comme je disais tout à l'heure, c'est déjà une entreprise qui a choisi de faire une relation client par ses postiers. Donc, c'est des postiers qui sont, donc pour, comme je disais tout à l'heure, situés à Vannes, qui ont la capacité de répondre sur l'ensemble des canaux digitaux. Donc, c'est pas uniquement dédié aux social media. Ils vont dans leur journée traiter social media, mais ils sont pas uniquement dédiés aux social media. Et derrière, c'est aussi l'évolution du métier dont tu parlais tout à l'heure, c'est que avant on était qu'en natif, maintenant il y a des outils qui permettent, voilà, de gérer en ticketing. Donc on ouvre, quand tu fais une question, ça ouvre un ticket dans un support spécifique pour que derrière la partie relation client, ils puissent le traiter d'une manière très correcte, en suivant, en ayant des objectifs qualitatifs, quantitatifs sur ces éléments de relation. Donc c'est effectivement, quand tu poses la question, ça va dépendre de ta question, en fait. Forcément, on s'aperçoit que beaucoup de clients vont poser une question en disant « Où est mon colis ?» alors qu'ils ont même pas, pour une grande partie, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on s'aperçoit, regarder tout simplement en mettant dans le moteur de suivi de colis, en mettant, et donc, en fait, c'est des éléments qui sont aujourd'hui demandés. Donc, on a souvent, pour des questions de ce niveau-là, un robot, effectivement, qui va apporter ces éléments-là. Et dès que ces éléments-là, on s'aperçoit qu'il y a des éléments supplémentaires d'interaction, à ce moment-là, tu bascules sur de l'humain. Mais ça, c'est classique pour les marques. Et même pour te dire tellement on était innovant, c'est qu'en 2013, on avait imaginé un compte Twitter qui était en fait un bot où tu envoyais en DM ton numéro de colis et tu recevais en DM tous les changements de
tout l'historique de ton colis.
Ah, donc ouais, à chaque fois que tu avais un changement, bon. Sauf que Twitter, au bout d'un moment, nous a dit, bah, attendez les gars, vous êtes du spam. Et donc, ils nous ont bloqué le compte. Mais autrement, tu vois, typiquement, on avait répondu à nos clients de l'époque qui disaient, on aimerait bien suivre nos colis d'une manière très simple. Et donc, on avait développé en interne un outil qui permettait, avec un compte spécifique, de faire ce suivi des colis sur Twitter en DM, quoi.
Allez, pour finir juste sur le sujet Twitter, Elon Musk. Du coup, qu'est-ce que, bon, sacré bordel, là, depuis un an. C'est quoi, toi, ta vision de l'avenir de la plateforme? Qu'est-ce que tu entrevois, toi, pour Twitter avec l'arrivée d'Elon Musk? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ou est-ce que là, on a tous raison de craindre un tsunami et que les choses basculent?
On est un peu tous dans l'expectative, parce qu'avec les évolutions, il y a des choses qui changent, qui arrivent, qui s'en vont, la certification payante, tu vois, tout ça évolue très rapidement. Et donc à chaque fois qu'il y a une évolution, on nous demande, est-ce que ça va avoir un impact? Finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'annonces qui sont faites, et donc elles mettent quelques temps avant d'arriver. Donc moi, je reste dans l'expectative, comme je disais tout à l'heure, sur toutes ces évolutions. Là maintenant, il y a les capacités, je crois que c'est de faire 2000 ou 4000 caractères, je crois, les nouveautés.
T'as essayé?
Non, j'ai pas accès, mais bon, voilà, on avait avant des choses qui permettaient de faire des tweets un peu longs. L'intérêt aujourd'hui, il est pas là. La plateforme, elle est pas là-dedans. Donc, on peut toujours, de manière optionnelle, le faire. Mais je pense que l'idée de cette plateforme, elle est de l'interaction avec les gens. Alors, j'oublie pas toute la partie haters, parce que forcément, c'est des choses qui sont très importantes quand on est un personnage public. Donc, nous, on est peu concernés. Les rares fois où j'ai vu, effectivement, je trouve que c'est des fois compliqué quand on a ce genre d'attaque. Mais globalement, quand on est un particulier et qu'on veut discuter, la plateforme, elle est pour moi encore très intéressante en termes de suivi. Maintenant, sur l'évolution, je pense que je suis pas sûr que même Elon Musk, il sait, il sait très bien ce qu'il veut faire de cette plateforme, à part gagner de l'argent, ou en tout cas pas en perdre. Ouais. Et donc je pense que c'est là-dessus où sera le point.
On va continuer, nous, de l'autre côté, en tout cas, à suivre le feuilleton, parce que le feuilleton Elon Musk, il est pas fini. Allez, maintenant je te propose que on continue notre petit tour d'horizon en basculant du côté de Meta cette fois-ci, puisque la poste est évidemment sur Instagram, voilà, avec une prise de parole que je trouve très chouette. Personnellement, j'aime beaucoup ce que fait aujourd'hui la poste sur Instagram. C'est un truc très tourné sur l'humain, très vrai, très authentique, qui est très en accord avec aussi la promesse de la poste, hein, toujours plus proche de vous, je crois.
La proximité, c'est un métier.
Merci. Pardon. Oula, j'ai fait un raccourci. Et là, il me semble que cette prise de parole Instagram, telle que moi je la comprends, elle semble très tournée marque employeur. Il y a notamment une série de vidéos qui met en avant des postiers dans leur vie de tous les jours. Je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est quoi l'objectif? C'est bien ça? C'est la marque employeur? C'est de recruter?
Alors, c'est pas que le recruter, parce que c'est pareil, on a une difficulté, comme je te disais tout à l'heure, c'est que cette marque, elle a énormément de phases différentes. Donc on s'est dit, on va avoir des verticales donc à traiter. Donc quand tu regardes sur le feed, effectivement, on a ces trois verticales qui est donc la mise en avant un peu de l'histoire de l'entreprise avec les boîtes aux lettres. Il y a effectivement l'humain, il y a tous ces éléments là aujourd'hui qui sont importants pour nous, tu vois, à voir. Mais la partie marque employeur, elle est importante, parce que finalement on s'aperçoit que on est une entreprise de 250 000 personnes, et le cœur, on va dire, de l'intérêt intérêt aussi, c'est de faire voir que finalement on a des gens qui sont ultra motivés, qui sont passionnés par leur entreprise, et on n'a pas que des facteurs aussi. On est une entreprise qui recrute beaucoup de data scientists, on a une très grosse entreprise à Grenoble sur ce sujet-là, on a Docapos, enfin voilà, donc on a des grosses entreprises sur le digital. C'est aussi donner cette image qui est très diverse, et que finalement les Français sont souvent arrêtés au courrier, colis et le facteur, et finalement il y a beaucoup d'autres métiers intéressants à la Poste, et effectivement on a donc la Poste Recrute qui fait cette partie-là. Donc l'Insta, il est assez ouvert entre le feed et la partie story, et on a ce qu'on appelle les jeudis de l'emploi, parce qu'on a beaucoup d'emplois.
J'ai vu ça.
Voilà, et donc ça c'est un peu la routine qu'on a tous les jeudis, avec les comptes Twitter en région pour mettre en avant tous les emplois qu'on a en région, parce que c'est aussi important de se dire que cette entreprise, elle recrute en proximité avec les Français.
Ok, et puis alors, je suis allé aussi jeter un coup d'œil du côté de TikTok. Alors là, c'est notre paire de manches. Le hashtag, j'ai regardé, le hashtag La Poste, voilà, 179 millions de vues de vidéos sur ce hashtag La Poste sur TikTok. Je trouve ça dingue, hein. J'imagine que toi, à l'époque, et que tes anciens confrères du groupe doivent regarder ça avec les yeux tout ronds. Et là, bah, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Alors, il y a des gens. Bon, évidemment, il y a des clients, des usagers. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Hein,
plutôt des clients.
Des clients qui se plaignent, forcément. Mmh, il y a de ça. Hein. Mais il y a aussi des employés du groupe La Poste, hein, des facteurs, des livreurs, et peut-être même des data scientists qui racontent leur métier. Alors, parfois de manière très intéressante, on apprend vraiment des choses. Puis parfois, de manière un peu surprenante, avec un certain nombre, je te fais pas la liste là, mais un certain nombre de vidéos hein, qui ont circulé de livreurs avec des pratiques un peu étonnantes, etc., qui ont fait du buzz. TikTok et La Poste, ça semble complexe comme ça. Comment est-ce que vous gériez, quand toi tu étais au groupe La Poste, les velléités internes à la création de contenu? Parce que ce qu'on se rend bien compte, c'est que bien souvent, la vidéo, elle a débordé, mais le mec, à la base, quand tu regardes un peu ses contenus, ça part plutôt d'une bonne intention. Ouais. Il veut raconter son métier, quoi. Comment on gère ça?
Alors déjà, pour moi, c'est pas spécifique. On a de tout temps, on va dire, même sur Twitter, on a eu des vidéos qui pouvaient poser problème sur la qualité de service. Et donc, c'est quelque chose d'assez classique dans notre mode de fonctionnement. C'est d'abord un système de surveillance. Et donc, TikTok aujourd'hui a la capacité d'être ouvert pour être surveillé. Donc, on avait cette surveillance avec un outil spécifique qui t'alertait en fait sur les vidéos virales avec le hashtag La Poste, avec un certain nombre de
donc là, ça clignote en rouge. Genre, ouais, il y a un truc qui se passe.
Alors voilà, on soit un mail en disant, bah attention là. Il y a une vidéo virale, et donc déjà tu l'identifies, ce qui n'était pas le cas avant. Donc quand les éléments comme ça sont ouverts, c'est assez simple, et après on a un compte qu'on a créé qui nous permet d'interagir avec la personne s'il y a des éléments dont tu parles de défauts professionnels. Mais à l'inverse, on a aussi noté beaucoup de on a par exemple des facteurs en Corse qu'on a même réutilisé en leur proposant dans une campagne d'adapter la campagne nationale à TikTok, qui donc régulièrement font des vidéos TikTok. On a un livreur qui est très connu qui fait du stand-up.
Carrément, voilà. On en avait parlé ici au micro du Super Daily.
Et donc finalement, en fait, c'est des belles opportunités par rapport à avant même que la marque soit présente, c'est de se dire, bah, en fait, on a déjà beaucoup de contenu. Et donc, si on prend le positif, donc voilà, c'est ces éléments. Et puis sur les éléments qui sont moins intéressants, c'est aujourd'hui comment on les traite, comment on apporte une relation client, sachant que ce n'est pas un outil. On a eu le même cas il y a quelques années avec Instagram, qui est un outil qui n'est pas fait pour la relation client. Mmh. C'est un outil qui doit être fait normalement sur ton smartphone et tu dois répondre. Et donc forcément, on ne peut pas industrialiser une relation client. Donc souvent, c'est la difficulté des marques, c'est que derrière, il y a une attente de nos clients d'être en relation. Mais finalement, nous, on se dit, ben, c'est compliqué d'interagir. Donc c'est souvent un peu manuel au départ. On donne un téléphone au service client qui va pouvoir accéder au compte, des choses comme ça, pour pouvoir engranger une première relation client. Et après, quand l'outil permet, ben on passe sur un système classique de relation client.
Quand tu dis c'est pas adapté à la relation client Instagram ou TikTok, ce que tu entends par là, c'est peut-être à la volumétrie que le groupe La Poste a, ou qu'est-ce que tu...
Alors Instagram maintenant le fait. C'était au départ, je veux dire que
les API n'étaient pas suffisamment ouverts.
Voilà, c'est ça. Et puis derrière, on est obligé de le faire manuellement. Ouais. Et ils autorisent pas en fait un outil tiers à venir récupérer la donnée,
taper dans les MP
répondre.
Et voilà, changer dans les MP. Ouais, je comprends.
Et donc souvent c'est souvent le cas qui arrive. Ouais. Et donc maintenant aujourd'hui Meta fait comme des gros efforts là-dessus avec ta Messenger. Il y a plein de choses qui permettent en fait de gérer cette relation client pour la partie Meta. Et donc pour TikTok aujourd'hui on n'a pas cette capacité là. Donc on est vraiment sur des éléments d'interaction personnelle, identification, échange avec la personne pour résoudre un problème ou mettre en avant une vidéo. Et donc aujourd'hui c'est des choses qui sont extrêmement intéressante, même si, et ça c'est pour moi chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que je me rappelle un peu de Facebook à l'époque qui trafiquait un petit peu ces chiffres pour que la mariée soit très belle avec les gens. Il y a, je pense qu'il y en a même qui a, sans parler même de le côté chinois, la partie donc classique de chiffres. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de questions à se poser sur le chiffrage qui sont proposés avec les millions de vues toutes les vidéos.
Oui, c'est quoi une vue? Déjà, la première question, c'est quoi une vue, effectivement.
Ouais, et donc je pense qu'il y a quand même des vraies interrogations aujourd'hui, mais ça a été le cas pour Facebook qui doublait, on le sait, qu'on l'a su 2-3 ans après.
C'est vrai, on avait eu cette drôle de surprise, voilà. Il avait fallu expliquer. Oui, alors tous les tableaux de bord étaient faux. Hein,
mais... Voilà, ouais. Je pense qu'on sera dans quelques années, si TikTok existe encore, ça sera la même problématique.
Donc le principe, si je comprends bien, c'est plutôt bienveillance vis-à-vis des initiatives venant de l'interne, hein. C'est ça plutôt.
Oui, oui, ça part toujours.
En même temps, toi, tu viens de là.
Oui, oui, ça part toujours d'un bon sentiment. Ce qu'il faut, enfin, sauf cas exceptionnel, ça part toujours d'un bon sentiment. Quand une personne prend la parole sur les réseaux sociaux, elle veut souvent bien faire. Et souvent, notre rôle, c'est de lui expliquer aussi la dangerosité de ce qu'il fait. Parce que finalement, c'est lui qui va se retrouver en face de la communauté. C'est pas la marque. Si je fais quelque chose qui, une fois détourné, c'est toi en tant que personne qui va être. Et donc, c'est là-dessus, souvent, moi, je trouve que c'est important d'échanger avec les gens. C'est pas lui dire, faut que tu retires ta vidéo, c'est inadmissible. C'est de lui expliquer que derrière, il y a un vrai risque aussi pour lui et pas que pour la marque.
Oui, quand tu commences à être suivi par 100 000 personnes et que tu as identifié la poste, celui qui a un problème avec son colis et qui est un peu enragé, peut-être que tu vas avoir affaire à lui. Je comprends. Ouais. Ok, ok. Et alors du coup, par ricochet, là, on va s'éloigner un peu de TikTok, mais dans la même lignée, j'aimerais qu'on parle employee advocacy. Mmh. Parce que, on le voit, le groupe La Poste, visiblement, les gens sont heureux d'y travailler à tel point qu'ils se racontent sur TikTok et sur Instagram. Mmh. Et du coup, tu parlais de 255 000 collaboratrices, collaborateurs, c'est énormissime. Ouais. Ça fait autant de capacités de multiplier la prise de parole du groupe. Hein. Quelles actions, toi, tu as eu l'occasion de mettre en œuvre sur ce sujet de l'employé de VKSI au cœur du groupe La Poste? Comment ça marche quand on est dans ces volumes-là? Parce que, excuse-moi, je fais juste un crochet. Nous, on vient de lancer à notre modeste échelle de Supernatif un petit programme d'employé advocacy. Pour l'instant, on est 5 à essayer de faire des choses. C'est facile, tu vois, n'importe quelle boîte peut le faire. Mais quand on est à 255 000, comment on fait ça?
Déjà, faut avoir, comme toi tu le fais, donc c'est une volonté de la direction. Du COMEX quand t'es dans un grand groupe comme La Poste. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté du top management. Parce que tu vas pas pouvoir décliner si tu n'es pas exemplaire. C'est comme ça, en fait, que cette réflexion-là, à l'époque, quand moi je travaillais à La Poste, c'était de se dire, avant même de se dire on a les 250 000 salariés qui prennent la parole, c'est comment aujourd'hui les membres du COMEX y prennent la parole. Et donc, tu peux avoir, en fait, aussi, et là, il faut s'adapter en fonction de chacun des membres du COMEX. Il y a des gens qui peuvent dire, moi, je veux le gérer. D'autres qui disent, moi, je veux juste valider. Je veux pas pousser. Je veux pas être embêté avec les interactions. Donc, il faut s'adapter à chaque membre du COMEX. Mais par contre, il faut que ces membres du COMEX, ils soient quand même exemplaires dans ce qu'ils font.
Donc c'est ce qu'on appelle la leader advocacy, c'est
voilà,
ça.
C'est ça en fait. C'est comme ça que nous on l'a appelé. C'est vraiment comment les leaders, comment le membre du COMEX, au moins un certain top management aujourd'hui, il faut qu'il soit présent sur les réseaux sociaux et notamment donc LinkedIn sur un sujet plutôt destiné aux pros. Et après effectivement tu peux travailler un management intermédiaire en se disant comment aujourd'hui je peux des directeurs d'établissement, un certain nombre de personnes, je peux les accompagner. Et enfin généraliser dans le cadre de formation en ligne, de guide des bonnes pratiques, tu vois, un accompagnement qui est pas un enfermement, parce que forcément on peut pas gérer 250 000 personnes aussi précisément, mais leur donner en tout cas les bonnes pratiques qui sont naturelles sur les médias sociaux pour que derrière en fait ils puissent prendre la parole sans problématique derrière par rapport à l'entreprise, quoi.
Voilà. Donc ça se passe concrètement, ça se passe quoi? Vous avez un cycle de formation avec des vidéos, c'est quoi? C'est un livre blanc avec des documents?
Alors sur le top management, enfin les COMEX, c'est un accompagnement spécifique en fonction de leur volonté. Sur le management, ça va être un travail de plus en proximité aussi, mais donc un peu plus large. Et puis sur le plus largement, c'est une communication globale avec des systèmes en ligne de vidéos, de guides des bonnes pratiques, d'accompagnement aussi en local, puisque derrière nous, on a, comme je disais tout à l'heure, on a des attachés de presse qui gèrent les comptes Twitter en local, qui sont aussi experts sur les réseaux sociaux et qui peuvent aussi accompagner un certain nombre de personnes qui sont identifiées comme étant référents. L'idée, c'est pas de dire que tout le monde du jour au lendemain va devenir, c'est aussi de se dire peut-être que j'ai des gens que j'identifie sur LinkedIn qui sont aujourd'hui très présents ou qui ont volonté, et d'accompagner ces gens-là par des formations, par des conseils au quotidien.
Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur dis j'aimerais qu'on parle de ça, et je leur conçoit directement les posts, les visuels, etc. Ou est-ce que je les incite à être authentiques, à utiliser leurs propres mots? Comment ça marche en fait? Comment tu pilotes ce navire-là ensuite?
En fait, je pense que c'est un mixte. C'est-à-dire, c'est de se dire, on a des grands piliers de communication. Et comment je vais travailler ces grands piliers de communication? Et là, on va plutôt travailler sur des OP d'employee advocacy. Hein. Par exemple, la Banque Postale, qui a organisé elle-même une superbe pour ses 16 ans, a très bien réussi ces éléments-là de partage, d'interaction. Et donc, c'est un grand pilier dans le cadre d'une campagne de communication. Tu vois, donc c'est un accompagnement d'une campagne. On fait une opération d'employee advocacy et donc là, on déploie. Mais bien évidemment, on a au quotidien, chacun, on vit des expériences, on a envie de partager ce qui se passe. Et c'est là-dessus où je dirais que l'essentiel, il doit se porter. Les grandes campagnes, c'est des grands moments forts pour que derrière, comme je disais tout à l'heure, il y a une vision 360 de ce qui se passe. Mais maintenant, ce qui intéresse les gens, c'est ce qui se passe au quotidien, c'est les coulisses. Et donc, c'est là-dessus où il faut accompagner les gens tout en leur donnant les clés de compréhension que derrière, la médaille du travail n'est pas forcément une envie de ta communauté de savoir ce qui se passe, quoi. Et puis, l'autre point aussi qui est important pour moi, notamment sur LinkedIn, c'est que il faut éviter l'entre-soi. On s'aperçoit que souvent, en fait, par simplicité, tu vas liker ce que font tes collègues et comme ça tu sais, sauf que le problème c'est qu'on disait tout à l'heure, on est dans un algorithme. L'algorithme va dire, bah en fait il aime ce que aiment ces gens-là, et donc on va te proposer souvent, alors quand c'est la poste, mais bah, que des éléments autour des postiers, oui, qui vont poster, quoi.
Bah, si moi je fais un post et que, voilà, j'ai les 36 poteaux de super natifs qui le like, ça sert pas à des masses,
voilà. Et puis ça, c'est à la fin, c'est finalement, ça va être que l'agence qui va voir tous tes posts, et l'intérêt quand même c'est de faire que ces posts ils aillent aussi en dehors de ta communauté. Et donc il faut pas hésiter, et donc c'est aussi ça le travail, de leur dire bah faut liker d'autres personnes, faut donner d'autres sujets pour que lorsqu'on fasse un post, bah dans l'algorithme ils se disent bah tiens, en fait il aime aussi d'autres choses, quoi. Et ça, c'est, ouais, aussi la difficulté qu'on a dans les grands groupes.
Ça, c'est un sujet vraiment passionnant. Et puis j'aimerais bien qu'on reprécise ce que tu appelais la leader advocacy. Ouais. Là il s'agit de d'accompagner des gens qui sont au COMEX, hein, des gens, oui, qui sont très importants, qui sont des chefs et des femmes femmes d'entreprise, des leaders de très haute volée, les accompagner dans leur prise de parole sur les réseaux sociaux, leur personal branding. Mmh. Comment ça s'organise, ça? Parce que on a le sentiment, quand on suit comme ça des top voice LinkedIn, des grands patrons, que ils le font eux, même si on se doute peut-être qu'il y a quelqu'un, ou il y a peut-être même une équipe derrière. Ça s'organise comment, ça?
Ça va dépendre vraiment de la marque, de la personne. Pour moi, c'est là, typiquement, faut s'adapter à la personne du COMEX. Il y a des gens qui, aujourd'hui, veulent garder, je pense qu'enfin, le plus connu, je crois que c'est Michel-Édouard Leclerc, ouais, qui garde beaucoup de choses. Alors, je pense qu'il est un petit peu aidé, mais en tout cas, il garde beaucoup de choses de lui-même, et on le sent bien dans la manière de réagir. Donc, c'est vraiment, là, l'idée, c'est de rencontrer, la personne ou l'entourage de la personne pour voir comment aujourd'hui on peut mettre en place une organisation qui permette de l'aider au quotidien, parce que forcément tu peux avoir beaucoup de demandes de contacts, est-ce que tu vois, ça t'intéresse ou pas, voilà. Donc il y a tous ces éléments là aussi de très logistiques au départ à mettre en place avant même de penser à tout ce qui est posté. Pour la partie post, c'est pareil, je dirais que on a nos grandes thématiques et leurs grandes actualités de chacun, et on va travailler ensemble sur ce sujet-là, et ils peuvent aussi avoir des éléments personnels, je sais pas, des lectures, enfin toi tu peux aller voir des choses, et ils peuvent aussi de temps en temps partager des choses plus personnelles pour que derrière, en fait, ça intéresse les gens. On n'est pas uniquement, pour moi, sur LinkedIn, on doit pas être, alors l'idée c'est pas de, comme on disait tout à l'heure, de dévoiler sa vie privée, mais c'est quand même de temps en temps de mettre un peu de soi pour que derrière on se dise bah ouais, cette personne-là, elle est vraiment là, elle est vraiment en interaction avec moi, elle est pas là uniquement sur des messages descendants de l'entreprise.
Tu trouves que pour l'instant les top level comme ça, ils sont à la bourre sur leur prise de parole individuelle, qu'ils ont besoin de ces ghostwriters, qui sont, pour eux c'est un monde pour l'instant, qui, toi qui connais, hein, ça, ouais, je te pose la question parce que moi je suis pas en contact avec ces gens. Toi tu l'as été.
Je connais pas tous, mais après là il y a là aussi la plateforme qui est difficile, LinkedIn, en fait. Par exemple, quand tu veux mentionner des gens, en fait, tu vois, tu peux pas faire un copier-coller, tu es obligé de le, ouais, faire nativement. Donc c'est vrai que c'est, enfin, ces gens-là, ils ont pas non plus toute la journée à faire un post LinkedIn. Donc il y a aussi des fois la plateforme qui est pas simple en utilisation. Alors elle évolue, mais je pense que il y a encore des possibilités de simplification, mmh, pour ces gens-là, pour que ça paraisse plus simple. Et puis c'est pareil, je pense que c'est chacun, ils s'aperçoivent en fait finalement que ben derrière un post qu'ils ont fait, il y a des gens qui l'ont partagé, les gens qui leur disent bah tiens, j'ai vu votre post sur ce sujet-là. Et donc c'est aussi ces interactions, se disent bah tiens, aujourd'hui il y a pas que la presse, il y a pas que des éléments télé, il y a des éléments aujourd'hui que je peux avoir sur les médias sociaux d'interaction. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être aussi de se dire bah je suis aussi proche du terrain ou du mon client. aujourd'hui, souvent, ces gens-là, ils sont très loin. Ouais. Bah, c'est normal, hein, dans les grands groupes. Et donc, ça permet des fois de les rapprocher, ils s'en aperçoivent pour certains, de ce client final et qui va dire, bah, tiens, ce truc-là, il a été assez mal pensé parce que je mets, je sais pas, 2 minutes pour le faire, alors que si vous le faisiez comme ça, ça serait beaucoup plus simple, quoi.
Donc, voilà, très intéressant.
C'est aussi là-dessus que je pense qu'il y a un intérêt pour eux.
Allez, moi, j'aimerais, on s'est dit beaucoup de choses, j'aimerais te poser un peu la question que nous, on nous pose fréquemment. C'est un peu la question piège du social media manager, hein, ou du CM. C'est quoi le ROI des réseaux sociaux selon Patrice Hilaire? C'est quoi le retour sur investissement que je suis en droit d'en attendre?
Bah, je vais te décevoir parce que comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça. Elle doit être définie, en fonction de ta marque. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, chaque marque est indépendante. T'as reçu des marques récemment que j'ai écouté qui font beaucoup d'éléments sur Facebook, par exemple. Moi aujourd'hui, je vois typiquement, nous on en fait très peu. Et donc ça dépend vraiment de chaque marque et de sa capacité à interagir avec ses clients. Donc d'autant plus que moi j'étais à la fin de la poste, on était vraiment sur des éléments très institutionnels et donc forcément c'est toujours déceptif dans les éléments institutionnels en termes de retombées d'interaction. Donc ce qui compte c'est sur la durée. Regardez avec la difficulté qu'on a évoquée tout à l'heure, il faut pas que tes métriques changent, il faut pas que Facebook te réduise ta capacité comme à l'époque entre ton interaction et si tu veux voir cette différence là, t'es obligé de payer. Donc c'est pour moi la presque la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'expliquer justement cette difficulté d'avoir dans le temps et de suivre, sans compter que tu peux aussi toi en tant qu'entreprise changer d'outil dans tes statistiques et puis finalement te dire bah en fait c'est pas compatible entre l'ancien et le nouveau, même si t'as essayé de négocier, tu perds un peu de données et donc finalement tu perds aussi un peu ton historique. Donc globalement c'est pas simple. Donc pour moi ce que j'ai toujours fait, c'est j'ai regardé typiquement que sur les années précédentes mais pas forcément très loin puisque le support évolue.
Bien sûr.
Et donc tout évolue et donc c'est des fois plus comparable entre les deux, quoi.
Ouais, donc regarder la trends en fait, hein, ouais. Avoir la grosse vue d'ensemble et pas la retombée immédiate et s'inscrire dans la durée, c'est ça que tu nous dirais.
Ouais, c'est ça, ouais, je dirais. Très bien résumé.
Merci. Non, parce que on me la pose, hein, donc j'ai dû aussi trouver mes éléments de langage. c'est quoi la suite pour Patrice Hilaire? On l'a dit tout à l'heure. Bon bah tu as quitté hein, le groupe La Poste. Ça fait un moment que tu y étais.
Ouais.
Dans quelles aventures est-ce que tu t'engages maintenant?
Eh ben écoute, voilà, je me suis dit que j'avais fait beaucoup de chemin sur les réseaux sociaux. J'avais fait beaucoup de choses. Les réseaux sociaux évoluent, mais je voulais tenter un nouveau challenge. Je travaille à Paris depuis donc quelques années maintenant et j'habite Angers et donc je me suis dit que
c'est loin.
C'était l'opportunité pouvait faire donc le larron et effectivement donc j'ai trouvé dans une super agence, une petite agence. Donc je passe d'un groupe de 250 000 salariés à un groupe de 13 personnes.
Wow, OK.
Voilà et donc je vais développer le business d'une agence qui s'appelle Playmoweb à Angers et donc derrière qui fait donc des applis de travail sur les objets connectés, de l'interface utilisateur et donc mon job ça va être de développer cette agence. Et donc c'est un vrai plaisir d'avoir commencé avec dans cette petite équipe. Et c'est pour moi voilà à nouveau. J'ai l'impression de revenir comme quand j'avais lancé Lisa La Poste, sauf que maintenant je suis un peu plus vieux. Donc quand j'arrive dans l'agence, je suis le plus vieux de l'agence. Mais surtout c'est quelque chose effectivement. J'ai l'impression de commencer par quelque chose de très nouveau et d'avoir totalement beaucoup de choses à faire et découvrir. Et c'est un métier, en tout cas, c'est un support passionnant, en fait.
C'est beau, c'est l'excitation. Regardez, là, ouais. Passer de 250 000 collaborateurs, une boîte de 250 000 personnes à 19 personnes, ouais. Extraordinaire.
Avec 13
personnes, ouais. Avec, du coup, là, tu vas te relever les manches, retour vraiment les mains dedans.
Alors,
là.
Je vais me dire relever les manches, mais, mais là, c'est vraiment, l'idée, c'est de vraiment d'aller chercher les clients, de vraiment d'échanger, et puis de en fait, c'est une agence qui avait beaucoup d'entrants, et finalement, de ceux qui étaient très connus dans la Grand Ouest, qui avait aussi des clients un peu, mais finalement elle a besoin encore maintenant d'être encore plus connue. Et donc mon job, ça va être vraiment de faire reconnaître cette agence qui fait un travail exceptionnel sur un système et sur des supports qui sont pas toujours simples non plus.
Eh ben on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Patrice, où est-ce que pour tous ceux là qui sont allés au bout de cet entretien, où est-ce qu'on te suit?
Sur
Twitter évidemment.
Ouais, c'est
sur
Twitter essentiellement. Donc c'est Hilaire Patrice. J'ai pas changé, j'ai pas Patrice Hilaire, c'est Hilaire Patrice avec deux L. Mais effectivement c'est le principal support où vous pouvez me suivre aujourd'hui. Après, ça reste plutôt ponctuel pour les autres supports et c'est vraiment mon lieu toujours d'interaction.
Patrice, un énorme merci. Merci beaucoup pour cette conversation. Voilà, je le glisse aussi pour dire à quel point notre rencontre, elle est fondatrice. C'est qu'on a retrouvé dans une collection personnelle une petite miniature de deux chevaux cochonou que l'équipe lui a offert tout
à
l'heure. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci d'être venu nous voir.
Mille merci. merci.
Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir Patrice Hilaire sur son compte Twitter. Vous lui faites coucou de notre part. Vous lui dites j'ai écouté cet épisode, c'était passionnant. Et puis vous écoutez cet épisode de podcast dans une appli de podcast. Vous connaissez le principe, hein, vous balancez 5 étoiles, vous faites circuler à vos amis. Et puis je vous donne rendez-vous de demain. Salut à tous. Salut Patrice, merci.
Salut, merci encore.
Salut, ciao.